Africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, Génération Y en débat. D'habitude, les jeunes discutent surtout sur les réseaux sociaux. Eh bien aujourd'hui, ils sont en direct sur des sujets qui leur parlent, les diplômes, l'emploi, l'Europe, le monde ou le sexisme. Yanis Tchankea est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 22 ans, Yanis, vous êtes étudiante en histoire et en communication. Vous terminez votre double licence. La route n'est pas encore finie pour les études, non,
non
de votre
pas
côté.
Encore.
Myriam Boukobza, bonjour.
Bonjour.
26 ans, vous avez terminé vos études, vous travaillez dans une collectivité locale. Vous appartenez toutes les deux d'ailleurs, Yanis Tchankea et Myriam Boukobza, vous appartenez au Bondi Blog, qui est un média alternatif qu'on connaît bien sur RFI, et pas seulement d'ailleurs, et qui donne la parole aux jeunes dans des quartiers sensibles. Vous êtes finalement un peu journaliste dans votre deuxième vie, non?
C'est un peu ça, ouais. Ouais. En parallèle du boulot. Ouais.
C'est ça, en admettant que vous n'ayez que deux vies, à mon avis, vous en avez même encore beaucoup plus dans cette génération.
Ouais.
Christophe Selzer, 25 ans, bonjour.
Bonjour.
Vous avez terminé vos études, vous avez à peu près autant d'activités, vous, qu'un candidat à la présidentielle. On a eu de la chance de vous joindre, d'ailleurs. Vous êtes coordinateur d'une association en France, Students for Liberty, qui regroupe d'ailleurs des associations, on en discutait là juste avant l'antenne en direct, un peu partout dans le monde.
Tout à fait.
Tout récent.
Y compris en Afrique d'ailleurs, avec une très belle conférence régionale au Kenya il y a une semaine.
Ouais. Et alors c'est quoi le but de Students for Liberty?
C'est diffuser la liberté sous toutes ses formes.
D'accord.
Quelque part je fais de la politique, hein, vous aviez
d'accord,
raison,
c'est
mais je
un
fais de la
programme,
politique de façon non coercitive.
Ok, cofondateur de Free Startup aussi, c'est pour inciter les jeunes.
Voilà, le Free Startup Project, c'est vraiment aider les gens à monter des startups et essayer de le faire sans argent public, sans soutien politique, sans institution.
D'accord, bref, vous aimez la liberté d'entreprendre, vous aimez les startups et vous passez une partie de vos nuits sur Twitter, on a pu le constater depuis qu'on vous a invité. Dans l'émission, Vincent Delhomme, bonjour.
Bonjour.
23 ans, étudiant à Sciences Po. À la rentrée, vous allez étudier au Collège d'Europe à Bruges. Bruges, c'est en Belgique. Hein.
C'est ça.
Vous êtes un futur eurocrate de Bruxelles.
C'est ça.
C'est affreux.
C'est exactement
donc
le terme.
Vous allez avoir encore plus de boulot si le Royaume-Uni sort de l'Europe.
Exactement. Et si la France sort de l'Europe, je serai...
Ah bon, on n'en est peut-être pas voilà. Encore là quand même.
Peut-être bientôt au chômage. Un diplôme pour rien.
Combien de traités de libre-échange vous aurez à renégocier si la Grande-Bretagne sort de l'Europe?
Ah.
C'est pas un quiz, mais...
Non, je crois qu'il y en a à peu près 80. Hein.
Oui, c'est ça. Vous ouais. Appartenez donc à Génération Libre, qui est un
tout à fait.
Think tank libéral et apolitique. En général, quand on dit libéral, je ne sais pas, on rajoute toujours apolitique devant ou derrière.
Ah, je dirais plutôt apartisan, hein. Parce que bon...
Apartisan.
On fait de la politique, mais on n'est pas affilié à un parti quelconque.
Bon, et ben ça promet les débats. Quant à vous, les voisins et les voisines, si vous appartenez à la génération Y, c'est ce qu'ils ont en commun, en tout cas tous les quatre, si vous estimez que les jeunes n'ont pas assez la parole, réagissez tout de suite en direct sur un sujet qui vous concerne. Vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71. 71, c'est Camille qui reçoit vos appels, d'ailleurs tous les jours de la semaine. Vous connaissez bien sa voix, elle aussi. Elle appartient à la génération Y et elle fête ses 1 an chez 7 milliards de voisins. Donc merci aussi de lui envoyer sur Facebook des bougies d'anniversaire ou tout ce que vous voulez de sympa. Génération Y en débat, c'est tout de suite.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On va faire du boum
sur RFI.
Du show.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures, aller vers l'inconnu.
Tu rates, tu meurs. 1000 regrets aux absents. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Yanis Tchankea, Myriam Boukobza, Christophe Selzer, Vincent Delhomme. Imaginons que vous êtes des citoyens britanniques aujourd'hui. Vous allez voter pour rester dans l'Europe ou pour sortir, Vincent Delhomme, futur eurocrate.
Je vais essayer de vous répondre objectivement et de pas penser à mon propre avenir. Non, 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 je voterai évidemment pour rester.
Ouais, Myriam.
J'ai pas vraiment de... Enfin, je suis pas vraiment d'accord avec ce que vient de dire Vincent. Non, je serais plutôt pour sortir de l'Europe.
Ah oui?
J'ai fait des études en droit européen, en droit des affaires européens. J'ai bossé en cabinet et puis j'ai vu un peu tout le mal que pouvait faire, que pouvait causer le libéralisme, le néolibéralisme.
L'Europe financière.
L'Europe financière, ouais.
Donc vous sortiriez.
Donc je sortirais.
Vous voteriez pour le Brexit si vous étiez une citoyenne britannique aujourd'hui.
Volontiers.
Yanis Tchankea.
Je ne me suis pas tellement posé la question. Je suis bien contente d'être française, pour le coup.
Je sais pas. S'ils veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Et puis s'ils veulent rester, ils restent. Et puis on fera un bout de chemin ensemble.
Et pour vous, Christophe Selzer ?
Moi, je ne suis pas résident du Royaume-Uni, donc je ne me prononce pas, je ne vais pas voter. Mais en revanche, je rejoins Myriam, alors peut-être pas sur la même analyse. Mais pour moi, le Brexit peut aussi être une chance pour l'Europe. On peut faire du libre-échange sans avoir nécessairement besoin de traités intergouvernementaux. On peut tout à fait penser la liberté autrement que sous ce biais-là. Je suis assez contre tous les gros ensembles politiques.
C'est ça. Donc,
et on peut faire plus d'Europe et mieux d'Europe.
Contre le monstre de Bruxelles, c'est ça.
Notamment, oui.
Bon, eh ben ça démarre bien. Myriam Boukobza, la campagne du référendum, en tout cas, vous le savez, a été marquée par l'assassinat d'une femme députée, Jo Cox, pour son engagement pro-européen. Elle symbolisait aussi l'arrivée de cette nouvelle génération de femmes en politique, globalement en Europe. Je sais que vous suivez de près le parcours des femmes en politique. Je ne sais pas si vous avez envie de faire de la politique plus tard, mais et notamment, vous avez envie de lancer le débat sur le sexisme dont elles sont victimes. Alors là, pour le coup, c'est dans la société française, parce que ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays d'Europe, en tout cas pas autant.
Moi, je dirais que le sexisme, c'est une problématique qui est universelle, je pense, puisque on vit quand même dans une société patriarcale qui est dominée par les hommes, et notamment en politique, où c'est d'autant plus prégnant. Moi, je travaille aussi avec des politiques, donc je peux aussi en témoigner. Quand on se fait appeler jeune fille, les regards misogynes, les remarques misogynes...
C'est souvent ça, ça vous arrive ?
Oui, ça m'arrive. Jeune fille ? Oui, ça m'arrive souvent, oui. En réunion, on m'appelle jeune fille.
Mais ceci dit, peut-être que vous, on vous dit jeune homme, non, aussi, les garçons ?
Un jeune homme, constamment, oui.
Ah bon ?
Mais
ça n'a pas la même connotation.
Quand on travaille et qu'on a un titre, en fait, c'est pas pareil.
Oui, non, mais si on ne se souvient pas de votre prénom, par exemple, ou de votre nom, Madame Boukobza, si on se...
Non,
vous le vivez comme une provocation sexiste.
Je ne le vis pas, c'est que c'est du sexisme. C'est que quand dans une réunion, on est entouré d'hommes, parce qu'en général, je suis la seule femme, et que l'élu vous appelle jeune fille.
Oui, mais eux disent qu'on les appelle jeune homme tout le temps aussi.
Non, mais pas dans le cadre du travail. Pas quand on travaille pour des politiques.
Ouais, je pense que dans le jeune homme, alors, dans le jeune fille, il y a sans doute une connotation sexiste. Dans le jeune homme, il y a aussi le jeunisme. Hein. Enfin, tout simplement, c'est que les hommes politiques ont sans doute du mal à comprendre qu'on puisse être jeune et ou vouloir faire de la politique, s'y intéresser, ou en faire peut-être.
C'est pour ça qu'on vous donne la parole aujourd'hui.
Exactement.
Bon, donc déjà, ça, vécu que vous trouvez déjà qui pose problème.
Qui pose problème, qui est agaçant. Mais après, si on est intelligent et qu'on répond un peu fermement et intelligemment, on peut quand même avoir des relations, comment dire, plus apaisées, on va dire. Mais après, moi, ce qui me dérange beaucoup dans le sexisme en politique, c'est que ça peut commencer par des remarques agaçantes, des connotations un peu sexuelles, etc. Et puis, ça peut dériver sur le harcèlement sexuel. Et moi, c'est cette problématique-là que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, puisqu'en effet, l'actualité politique est brûlante à ce sujet-là, avec l'affaire Baupin...
En mai dernier.
Député
écologiste, 4 femmes politiques ont dénoncé des agressions sexuelles. Alors, il y a prescription pour la justice, mais c'est vrai que ça a fait quand même scandale, au point d'ailleurs qu'il a démissionné très vite de la vice-présidence de l'Assemblée nationale.
Alors, ce qui est très dérangeant dans l'affaire Baupin, c'est que c'est assez révélateur de la manière déjà dont les médias traitent la question du harcèlement sexuel et traitent le sexisme. J'ai lu par exemple l'article de Luc Vaillant dans Libération qui parlait de séduction, de libération sexuelle, etc. Mais sans prendre en compte le fait que les femmes soient des victimes de harcèlement. Et ça, minimiser le harcèlement sexuel, c'est extrêmement grave. Et c'est notamment diffusé par les médias, pas par tous, mais voilà.
Il y a eu quand même des doubles pages entières d'appels, de collectifs, de femmes politiques qui se sont alliées, de femmes journalistes dans le domaine politique également. Ouais. Enfin, quand même.
Il y a quand même un double discours, c'est vrai. C'est qu'à la fois... mais c'est juste que moi, je reste focalisée sur ça, parce que ça me surprend toujours, en fait, de laisser... parler ces hommes-là de cette manière-là, en fait. Mais en effet, si on revient, par exemple, en 2015, de la lettre aux hommes politiques qui a été écrite par les journalistes, celle-là était très forte. Et je pense qu'elle a eu un certain impact.
Elles ont dénoncé le sexisme aussi à l'encontre de ces femmes qui suivent les hommes politiques.
Hein. Exactement.
Et vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a eu un tournant dans l'affaire Baupin où jusque-là, d'abord, souvent, on mettait en doute ce que disaient les femmes. Et là, non seulement on n'a pas mis en doute les révélations de ces femmes concernant les agressions sexuelles dont elles avaient été victimes, mais on a beaucoup dit elles sont courageuses.
Oui, un tournant, oui. Mais après, ce qui était dérangeant dans le traitement de l'affaire Baupin, c'est c'est la manière dont on a pu... En fait, c'est comment on a gardé le silence avant les dénonciations, c'est-à-dire que le parti ELV a quand même étouffé l'affaire pendant 3 ans.
Europe Écologie, oui.
Europe Écologie Les Verts a quand même étouffé l'affaire pendant 3 ans. Et c'est pour moi le point dérangeant, c'est qu'à chaque fois...
D'ailleurs, la conséquence, c'est qu'il y a prescription finalement aujourd'hui, le fait qu'elle n'ait pas parlé à l'époque. Hein.
Voilà, c'est ça. Il y a prescription, donc du coup, Denise Baupin ne pourra pas être condamnée. Et du coup aussi, il y a aussi cette peur des femmes de porter plainte, puisque souvent, elles ont peur de perdre leur boulot. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut...
Ou de freiner leur carrière.
De freiner
c'est
leur
pas
carrière.
Tout à fait la même chose. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Yanise...
C'est sûr que ça serait mieux que les femmes soient protégées et qu'elles puissent être sûres que si voilà, elles se font agresser ou harceler, elles aient tous les moyens et les outils en main pour pouvoir se défendre et continuer une carrière et sans que cela ne puisse être un frein. C'est très important et je pense qu'il y a une forme de non-dit et une forme de pression, je pense parfois indicible, qui peut-être les empêche de s'exprimer sur le moment et du coup, comme disait Myriam, de cette peur.
Il n'y a pas un fossé générationnel? Est-ce que dans votre génération, le harcèlement sexuel peut-il en partie disparaître ou pas? Christophe Salzer.
Je pense que les choses changent beaucoup, effectivement. Je pense que pour des générations passées, c'est beaucoup plus difficile et elles sont encore présentes parce qu'elles rencontrent les difficultés dont vous parliez. Et je comprends tout à fait le combat que vous pouvez mener.
Mais vous, si par exemple une amie vous parle de ça, vous ne mettrez pas en doute ces accusations?
Non. Je ne vois pas pourquoi je mettrais en doute particulièrement.
Non, mais est-ce que vous chercherez à minimiser, comme ça a été le cas pendant des années, de la part des hommes? Comment vous réagiriez?
Je sais pas, là, je vais essayer de l'aider dans son contexte particulier à elle. Et après, de façon générale, moi, ce qui m'intéresse de dire, c'est j'ai en face de moi que des individus. Donc, j'ai pas un homme, une femme. Enfin, je m'occupe pas, en fait, des différences de confession, je sais pas, d'orientation sexuelle, de différences de genre. Moi, j'ai juste des individus en face de moi, je travaille avec eux. Je me pose même pas la question. Dans mon mouvement, on n'a pas spécialement de femmes qui viennent naturellement. Ça se constate ailleurs, d'ailleurs, sans même que ce soit naturel, même dans nos générations.
Sur Liberty, ouais.
Voilà, et je vais pas les chercher spécifiquement. Moi, j'accueille les gens tels qu'ils viennent et on travaille ensemble, point.
Vincent Delhomme?
Oui, je suis assez d'accord pour dire qu'il y a un vrai fossé générationnel dans le rapport à la séduction, à ce qui est présenté parfois comme de la galanterie, en disant voilà, c'est bien de flatter les femmes, etc. etc. Et je pense qu'il y a des hommes d'un certain âge qui ne se rendent pas compte de ce que ça véhicule. Néanmoins, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le ce qu'on renvoie du féminisme, c'est-à-dire que ce serait une idée dépassée, ringarde, que le combat pour l'émancipation ou pour le respect des femmes serait déjà gagné. Et c'est des choses qu'on entend, notamment chez les jeunes générations, que moi je trouve tout à fait inquiétante, parce qu'il est loin d'être gagné. Enfin, vous voyez, quelque chose qui m'a récemment choqué, et ça a été repris par les médias, c'est le traitement de cet horrible double assassinat qui a eu lieu dans les Yvelines, où pendant 2-3 heures, tous les médias ont titré un policier et sa compagne tués, et avant de se rendre compte que non, c'était pas un policier et sa compagne, c'était un policier et une policière, et que ça aurait pu être une policière et son compagnon. Et bon, c'est des petites choses comme ça, mais qui seront qu'on a encore vraiment du chemin.
Ouais, je suis complètement d'accord. Enfin, aujourd'hui, il faut continuer, entre guillemets, le combat. Je pense que c'est une question que les hommes et les femmes doivent vraiment s'approprier et travailler ensemble et évoluer ensemble à ce niveau-là.
Vous pouvez bien sûr nous appeler pour participer à nos discussions au 33 1 84 22 71 71. Dans quelques secondes, Christophe Salzer, vous lancez le débat à la mesure de votre génération 3.0. A-t-on encore besoin d'un diplôme?
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
A-t-on encore besoin d'un diplôme? Vous aviez envie qu'on débatte là-dessus, Christophe Salzer. Dans un pays comme la France, en tout cas, où on a le culte du diplôme, hein, la question est quand même assez provocante.
Effectivement, mais moi je pense que le diplôme effectivement est en soi inutile de façon absolue. Après,
Yanise à côté de vous fait oui. De la
je suis partiellement d'accord. Je pense que c'est bout de papier parfois.
Effectivement, je vais développer. Je pense qu'en soi, le diplôme ne vaut rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un diplôme pour valider un ensemble de compétences, de savoir-faire, d'envie, de volonté et même de volonté d'apprendre des choses. Après, évidemment, pour un certain nombre de filières, il faut continuer à avoir un diplôme. Si vous voulez être avocat, ça va être difficile de faire sans. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Même en Afrique, on a... insuffisamment d'infrastructures parfois et il faut pouvoir développer des formations diplômantes. Il y en a qui le font en e-learning. J'ai un ami de Sciences Po qui fait ça avec Chalkboard, qui a même réussi au Ghana, je crois, à former un certain nombre de femmes d'ailleurs. C'est même pas fait exprès, mais je regardais ce matin. Donc ça, c'est très bien. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, non pas tant que je le méprise. Ce qui m'intéresse, c'est de dire il y a tout un tas de métiers où on n'a pas besoin d'un diplôme, où on peut l'acquérir. Je veux casser cette image-là. On n'a pas forcément besoin d'avoir le bac, d'aller dans des études supérieures pour se former, je ne sais pas, par exemple, à être développeur. Ce que fait très bien l'école 42, par exemple, où vous avez bon, à l'accès sans condition de diplôme.
On a consacré une émission à ça il n'y a pas longtemps, effectivement, avec des petits génies de l'informatique qui se débrouillent très bien.
Simplon le fait aussi très bien.
Et qui ouvre des écoles ailleurs en Afrique.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire se rencontrer des gens qui cherchent un emploi ou qui cherchent une activité et de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre au contact directement de ce qu'ils peuvent faire et d'apprendre sur
le tas. Attendez, tous les quatre, vous êtes vraiment le contre-exemple dans le studio. Là. Vous êtes là à vous démener pour avoir vos diplômes.
Mais moi, je suis assez d'accord, en fait. Ce n'est pas une question que je m'étais posée avant. Mais étant donné que j'ai fait des études de droit, que là je travaille en collectivité locale, donc j'ai un parcours un peu entre guillemets linéaire, je me rends compte que le travail là, que je fais sur le terrain, je travaille sur la prévention de la délinquance, c'est pas un travail que je connaissais, que j'ai appris sur le tas, et qu'en effet les compétences je les ai développées au fur et à mesure, et que le diplôme j'en ai pas eu besoin, vraiment, c'est-à-dire que mes études de droit ne me servent pas aujourd'hui. Pareil pour le journalisme, là on est au Bondy Blog, on s'est formé sur le tas, mais j'ai pas eu besoin.
Ah bah bien alors, donc on a plus besoin des écoles de journalisme. Ah bah vous allez faire des amis dans la profession.
Non, c'est pas ça, c'est que je pense vraiment qu'il y a bien sûr qu'il y a des choses qu'on apprend en école de journalisme, mais là dans notre expérience au Bondy Blog, on a appris à écrire, on a appris à débattre et
à
voilà,
s'exprimer, donc à ne pas stresser.
Exactement. Voilà.
Non, mais moi, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Parfois, on a un culte du diplôme en France qui est terrible. C'est par rapport à d'autres pays,
qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui, Christophe Zelzer, on n'a plus besoin du diplôme? C'est justement les MOOC, les Massive Online Courses, c'est la génération 3.0, c'est les nouvelles technologies. Servez-vous, apprenez par vous-même, tout seul.
C'est plusieurs choses. C'est d'abord le fait que, avec mes idées politiques, tout bêtement, je suis contre le fait qu'une institution vous délivre un diplôme.
C'est le premier élément. Mais pas ça, d'État, c'est rien.
Tout à fait c'est radical et je tiens à le dire parce que ça a une importance. Après, de façon tout à fait pragmatique, je dis ça parce que je sais qu'on a un marché de 100 000 développeurs qu'on n'a pas en France, qu'on peut former facilement. Vous n'avez pas besoin d'être bon en maths pour ça. Vous pouvez l'apprendre, évidemment, j'allais presque dire tout seul sur Internet ou via des structures ou des tiers-lieux d'éducation comme l'école 42 ou comme, je ne sais pas, des gens ensemble qui ont besoin d'apprendre à développer. Vous pouvez prendre quelqu'un de 13 ans, de 25 50, 30 ans, dans des perspectives différentes, ils se mettent ensemble et ils apprennent la chose. Et puis ensuite, ils auront tout bêtement la capacité de faire des choses. Il y a une auto-validation des compétences qui se fait. Et le diplôme, on ne sait même pas à quoi il sert dans cette histoire.
Vincent Delhomme, le futur réglementaire de l'Union européenne.
Oui, mais je partage le constat. Il y a une sacralisation du diplôme et surtout une vision élitiste du diplôme en France. Et je suis bien passé pour en parler, pour avoir fait une école qui renvoie cette image-là.
Attendez, vous vous destinez quand même aux institutions bruxelloises, vous allez passer votre vie à écrire des réglementations.
Je ne vais pas du tout cracher sur mon propre parcours et sur le diplôme et sur les écoles. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est effectivement accepter la diversité des parcours en France, les parcours qui peuvent être fragmentés, qui peuvent être chaotiques, accepter qu'on peut gagner des compétences sans nécessairement le faire sur les bancs d'une école ou d'une université. Je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, le diplôme aujourd'hui quand même protège. Enfin, je trouve, les statistiques le montrent.
Des étudiants diplômés qui sortent, qui sont au chômage, ils vont encore chercher leurs parents.
Oui, je veux dire, par exemple, moi, j'ai
40% pour la
regardé,
promotion 2014, 40% pour pas de travail.
J'étais curieux, j'ai regardé les chiffres du chômage chez les jeunes. Et 1 à 4 ans en sortant de formation initiale, on a 11,5% de chômage pour l'enseignement supérieur, on a 24,5% pour un niveau bac et on a 55% pour les 100 diplômes.
Là, c'est une moyenne. En plus, on doit faire des distinctions géographiques. Donc, c'est tout autre chose.
Repenser la manière dont on acquiert les compétences, effectivement sortir du moule un peu franco-français de la sacralisation du diplôme, je suis tout à fait d'accord, mais ne pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et bien prendre conscience que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, avoir un diplôme, c'est quand même ça moins qu'avant.
On va reprendre juste après le flash, je vous lirai aussi des messages d'auditeurs sur a-t-on besoin encore d'un diplôme, et bien sûr vous pouvez nous appeler au 331 84 22 71 71, la génération Y en débat, tous les sujets qui vous touchent.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, génération Y en débat avec Yanis Chouankea, Myriam Boukobza, Christophe Selzer, Vincent Delhomme, ils ont tous moins de 26 ans et ils débattent des sujets de leur choix et bien sûr des sujets qui les touchent. On parlait juste avant le flash du diplôme, a-t-on encore besoin d'un diplôme? C'est vous Christophe qui lanciez le débat, un débat c'est vrai un peu à l'image de votre génération 3.0, Vincent Delhomme, vous étiez nettement plus mitigé alors que sinon vous, les trois autres ça faisait l'unanimité, vous êtes tous des diplômes.
Pas aussi radical que lui.
Non, enfin en gros vous courez tous après un diplôme d'ailleurs qui vous rend la vie difficile hein, parce que c'est dur mais finalement à quoi ça sert, c'est ce que vous posez ouais, la question.
Puis moi je trouve qu'il y a une forme de pression de la société, de la famille qui est pas forcément toujours évident ouais. À gérer.
Yanis arrive à la fin de sa double licence qui lui a demandé un boulot dingue, elle est fatiguée au mois de juin.
Je me suis rendu compte l'évolution et comment j'ai évolué avec le temps, c'est simple, j'ai fait une classe préparatoire dans une école, enfin dans un lycée très prestigieux et j'étais super contente parce que j'étais fière, j'étais la nana qui sort de banlieue, je vais faire des études prestigieuses, je vais faire le bon cursus, la bonne formation, le bon diplôme. Mais après ça, c'est un peu la désillusion parce que la question se pose de qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux être juste bien parmi les autres ou est-ce que je vais faire quelque chose qui m'importe indépendamment de l'aspect financier et de la carrière et du statut social? C'est ça.
Peut-être que le problème, c'est aussi le fossé qu'il y a entre le monde du travail et la formation qu'on a à l'université. C'est vrai que quand on finit nos études et qu'on plonge dans le monde du travail, c'est vraiment un saut en parachute. Hein.
Et rien n'est facilité parce qu'on faire des stages c'est compliqué, faire de l'alternance c'est compliqué. Enfin, on est très dans la théorie.
En dépit du diplôme, Vincent. Ouais, ouais.
Non, mais moi j'ai le sentiment que ce qui est exprimé c'est vraiment la demande d'une plus grande ouverture et tolérance envers les parcours de chacun. Et pas cette course au diplôme qui fait que les jeunes Français à 18 ans doivent choisir une orientation, qu'on leur dit que s'ils ne font pas telle ou telle école, ils ne sont rien, etc. etc. Et ils ne prennent pas forcément beaucoup moins d'années de césure, d'années de réflexion. Et ça crée beaucoup de souffrance pour ces jeunes-là. On peut réinventer le diplôme, on peut le penser un diplôme avec plus de concurrence, peut-être plus de d'organismes ou d'institutions qui seraient.
Le truc, il n'y a pas cette concurrence. Non,
du monde là.
Penser qu'on n'a plus besoin de compétences, ou en tout cas, si on n'a pas besoin de compétences, on n'a plus besoin de les faire valider par qui que ce soit.
Mais si on a besoin de compétences, c'est du diplôme dont on n'a pas besoin. Oui, c'est ça.
Mais
qu'est-ce qui valide la compétence?
Voilà.
Ce que vous avez fait.
Votre personnalité, un mec... ce que vous faites.
Non, mais je ne dis pas du tout que le diplôme peut être des compétences.
Il faut faire une enquête policière, c'est quand même plus long.
Ça peut être des compétences entrepreneuriales, des compétences sociales, des compétences associatives. Ce n'est pas uniquement les notes. Moi, je ne dis pas du tout ça. Mais avoir à un moment donné quelque chose qui puisse être une preuve de vos
compétences. Ce sont les pères qui valident. En France, c'est ce qui prime le diplôme, les grandes écoles, les notes.
Ouais,
quand on travaille aux États-Unis, on a fait une petite licence ou un DUG. Enfin, moi, j'ai travaillé dans un cabinet avocat où il y avait des personnes qui travaillaient avec moi qui n'avaient pas de diplôme.
Ouais, Yanis qui a vécu aux États-Unis. Et on leur donne leur chance.
Ouais, mais oui, c'est complètement différent parce qu'en fait, aux États-Unis, quand tu viens, on te demande d'abord. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait?
Oui. Non, alors, si vraiment le vent était en train de tourner, pourquoi les étudiants américains ou même britanniques s'endettent pendant des années pour avoir un diplôme dans une bonne université? Et puis, si vous regardez les stars là, de la Silicon Valley, je ne sais pas, Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, université Stanford, ça a dû lui coûter quand même assez cher. Il a revendu son réseau social, ceci dit, 26 milliards de dollars. Mais bon, on prend d'autres exemples, Mark Zuckerberg, Harvard. Ils sont vieux par rapport à vous, d'accord?
C'est aussi pour ça que l'école 42 s'exporte dans la Silicon Valley.
Bah, on est bien d'accord.
Pour Xavier
Niel a du nez.
Parce que je rappelle que la scolarité n'est pas payante pour les étudiants de cette école-là.
Vous qui êtes un ultra-libéral, justement, Christophe Selzer, donc on fait de l'argent avec tout et n'importe quoi. Le savoir, les universités, c'est un bon plan pour ça, non?
Non, généralement, la connaissance...
On a une marchandisation du savoir et des diplômes aujourd'hui qui fonctionne bien.
Plus ça va, plus la connaissance tend vers un coût qui est à zéro, en fait. Vous avez à peu près tout à disposition sur Internet.
Alors, avec quoi vous allez faire de l'argent, vous, le libéral?
Comment ça, moi?
Si on ne peut pas revendre la connaissance, si on peut pas...
Vous créez des produits. Vous créez des produits, n'importe lesquels.
Une start-up,
une association, n'importe quoi. Mais la connaissance, quasiment, ne vaut plus rien, j'allais dire.
Mais la connaissance, ce n'est pas Internet.
Vincent.
Non, sur Internet, je veux dire qu'on peut, on peut y accéder avec l'outil qui s'appelle Internet, justement. D'accord. C'est ça que je voulais dire.
Moi, j'avais une question pour Christophe, qui est libéral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le diplôme, on ne force pas les employeurs, on ne force pas les entreprises à l'exiger. Toute entreprise, n'importe qui peut embaucher quelqu'un sans diplôme. Il n'y a pas de l'obligation
sauf
légale.
Pour les professions réglementées.
Sauf pour les professions réglementées.
Ou sauf dans l'administration. Par exemple.
Ça, c'est en théorie. On sait très bien qu'on
peut. Bien sûr. Mais ce que je veux dire à Christophe, c'est qu'il veut, entre guillemets, supprimer le diplôme. Mais pourquoi en fait, j'ai l'impression que c'est quasiment coercitif.
Christophe, il va supprimer les administrations tout court, donc il n'y aura plus besoin.
En fait, je ne veux pas supprimer le diplôme et je ne veux pas supprimer les administrations. Tout ça n'existe pas dans le monde que je construis, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, je ne joue pas contre, en fait, les choses. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir des gens qui ont 13-16 ans, qui ne vont pas avoir le bac, voir comment, à partir de ce qui les intéresse, de passion, de hobby qu'ils ont, comment je peux leur faire rencontrer quelqu'un qui a une activité, si possible rémunérée, en rapport avec cette passion, et comment est-ce que ce mec-là, qui peut-être, je sais pas, le mec joue à des jeux vidéo, peut-être qu'il sait mal lire et écrire, mais peut-être qu'il a des idées géniales pour créer des notes de contexte pour faire des jeux vidéo, peut-être qu'il peut tout à fait bosser même pour une grosse boîte.
Mais sans que ce soit une injonction, on est d'accord.
Ben non, il n'y a aucune injonction dans ce que je dis. D'accord. C'est-à-dire que moi, je le fais de façon
incoercitive. C'est-à-dire que si moi, demain... Mais je pose la question, alors que je suis plutôt d'accord avec toi, mais si moi, demain, j'ai envie de faire de la recherche ou avoir un diplôme et rentrer dans une école, je peux le faire.
Ah bah oui, je ne m'en occupe pas, je ne regarde pas ça, en fait.
Okay.
Je ne regarde pas
mais
ça. Et il y aura toujours
idéale,
des écoles. En fait, je n'ai pas une société idéale. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant, qu'est-ce que je peux créer comme opportunité. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec faitonreseau.com. On essaie de faire se rencontrer, comme je disais, sur cette base-là. Des gens qui ont une passion, un intérêt, quel que soit leur âge, et quelqu'un en face qui a une activité rémunérée là-dedans. Et comment est-ce qu'ils peuvent se rencontrer?
Mais ça, c'est cool. Voilà. Fais ton réseau. Ça va aider les gens qui n'ont pas de réseau. Et
je pense évidemment à des jeunes qui sont en banlieue, mais n'importe où, en fait. Parce que vous avez des gens en ville aussi, tout bêtement, qui sont paumés. Vous en avez qui ont un diplôme et qui sont paumés. Il y en a qui n'ont pas de diplôme et qui sont...
Vous risquez pas de créer deux mondes parallèles qui ne se rencontrent pas. Qu'en pense l'eurocrate de Bruxelles, là?
Non, bah, il y a aussi cette question-là sur l'université et les écoles en général. C'est des lieux aussi de rencontres, de sociabilité. Et c'est aussi la critique qui se fait contre, par exemple, les MOOC ou les cours en ligne en disant c'est très bien, chacun va apprendre chez lui. Une critique que
on
je partage pas.
Les MOOC, il me semble.
Les MOOC, pardon, excusez-moi.
Oui.
Une critique que je partage pas entièrement, hein, mais il y a aussi cette question-là. Est-ce que les universités ou en tout cas les lieux de rencontre comme production de savoir. Est-ce qu'elles ne sont pas aussi à privilégier?
Je peux vous lire deux messages d'auditeurs. Herman, qui est à Cotonou, sur les diplômes, il nous dit les diplômes sont, il est au Bénin, donc, sont essentiels pour trouver du travail, mais la plupart du temps, on l'obtient de manière illégale, par exemple en l'achetant. On peut même l'avoir avant la fin des examens officiels de l'université, donc les diplômes n'ont plus de valeur. Ou encore Hissen, qui est à Kribi, dans le sud-ouest du Cameroun. J'ai l'impression que de nos jours, le diplôme n'a plus de valeur, les postes disponibles sur le marché du travail sont très limités, et le recrutement se fait surtout au bouche à oreille. Mais là, on a des auditeurs qui nous écrivent d'un continent où c'est unique au monde par rapport aux autres continents, c'est-à-dire que plus ils sont diplômés, moins ils trouvent de travail. Contrairement à chez nous, quand même si les diplômes ne protègent pas du chômage, ils protègent un petit peu plus que quand on n'a même pas le bac, pour le moment.
Mais en fait, je suis d'accord avec vous. En fait, je repense au cas d'une amie qui bosse dans une des plus grandes entreprises digitales du monde et qui a falsifié sa licence, parce qu'en fait, elle avait la flemme d'aller à l'université, mais c'était quelqu'un d'intelligent. Elle a falsifié sa licence et son diplôme d'école et elle travaille dans la plus grande entreprise digitale.
Mais elle l'avait le diplôme ou pas?
Elle n'avait pas le diplôme, non, elle ne l'a pas eu. Le diplôme de licence, elle ne l'a pas eu. Par contre, après, elle est rentrée dans une école en
France,
master.
Hein.
Oui, en France.
Ah oui.
Et là, elle est, enfin, je veux dire, elle est super bien payée.
On apprend des trucs là quand même.
Hein. Non mais c'est pour vous donner des exemples concrets.
Mais c'est vrai que parfois c'est compliqué. Tout à l'heure tu parlais des années de césure, de prendre le temps de réfléchir à son parcours. Moi j'ai pris une année de césure parce que je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire et il faut que je trouve ma place et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et je pense qu'il faut vraiment pousser. Là je sais qu'en ce moment ça commence un peu à évoluer, on incite les jeunes à partir en année de césure, mais c'est hyper important.
Enfin, alors justement, tiens, ça tombe bien parce que Vincent Delhomme, le futur eurocrate de Bruxelles, vous vendez déjà votre crèmerie ou l'auberge espagnole, je sais pas, mais en tout cas vous voulez lancer le débat sur la mobilité des jeunes et si possible pas que sur les réseaux sociaux, hein. C'est ce que j'ai compris.
Non, tout à fait.
En fait, il y a plein de choses qui existent ailleurs.
Bon, allez-y, Vincent.
Ouais. Non, c'est tout le débat sur le Brexit qui m'a fait me pencher sur cette question, parce qu'on parle beaucoup de il se trouve que la plupart des jeunes britanniques vont voter massivement pour rester dans l'Union européenne, et on entend souvent parler
la question est de savoir si ils seront suffisamment nombreux.
On entend souvent parler d'une génération européenne, et il y a une espèce de évidemment la génération auberge espagnole, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que ça concerne qu'une minorité de jeunes étudiants européens qui profitent d'Erasmus ou même qui partent à l'étranger dans le monde. Et il y a surtout un vrai clivage social sur ces questions-là. Par exemple, en France, il y a quasiment 60% ou 70% des jeunes qui partent en mobilité qui sont des jeunes de grandes écoles, qui ne sont qu'une minorité des étudiants.
Mmh. Et il faut préciser pour les auditeurs qui ne connaissent pas, mais enfin, il y a Erasmus Mundus, hein, donc oui. Où que vous soyez dans le monde maintenant, c'est vrai que ça s'est très largement élargi, mais il faut rajouter de l'argent. La bourse Erasmus ne couvre pas en fait, votre vie sur place dans l'université, même si vous ne payez pas les frais de scolarité dans l'université où vous êtes accueilli.
Tout à fait, il y a ce problème-là. Et en fait, on refabrique cette coupure en fait, européenne entre une petite élite et les autres, qui existe déjà, puisque globalement, c'est plutôt les CSP+, au Royaume-Uni et autres, qui soutiennent massivement l'Europe, et les classes plus populaires qui ne la soutiennent pas. Et moi, mon sentiment, c'est qu'on va refabriquer ça, en fait, avec une nouvelle génération de jeunes très, très internationaux, qui parlent 2-3 langues, qui ont voyagé, et une grande masse de jeunes qui n'ont pas eu cette opportunité-là, et qui ensuite, va recréer le même problème de communication entre deux jeunesses qui ne se parlent pas, qui ne se comprennent pas. Mmh. Et donc, oui. Effectivement, il y a pas mal de choses à faire.
Sous-entendu, c'est pas parce que vous êtes tous sur Facebook que vous comprenez, c'est ça ?
Non, je pense qu'on parle souvent d'une jeunesse, il y a sans doute des jeunesses.
Oui, il y a différentes jeunesses, c'est clair.
Et sur cette question-là, il y a une initiative que je trouvais assez intéressante, c'est celle de l'Erasmus de l'apprentissage, qui a été lancée l'année dernière par le Parlement européen, et donc qui vise à permettre aux apprentis, comme son nom l'indique, à partir en mobilité. Et voilà, c'est ce genre de choses que je trouve tout à fait intéressantes.
Bon, mais évidemment, ils sont trop peu nombreux encore.
Évidemment, non, c'est une expérimentation qui a lieu en 2016, parce que bon, il y a énormément d'obstacles légaux.
La plupart des jeunes sont curieux et ont envie d'avoir une expérience à l'étranger. Hein. C'est rare même, des jeunes qui disent « Ah non, moi je veux surtout pas sortir de chez moi ».
Sur le constat, je suis un peu mitigée sur ce que tu dis, parce que la plupart de mes amis qui viennent de classes plutôt populaires, justement avec cette démocratisation du voyage international, en Europe, d'Erasmus Mundus, ils ont eu l'occasion d'aller à l'étranger, d'apprendre d'autres langues, de rencontrer des gens du monde entier, etc. Et en fait, l'argent n'a pas été vraiment un obstacle. Et au contraire, ça leur a permis aussi ce qu'on appelle les transclasses, mais de prendre leur ascension sociale en rencontrant un autre monde.
Mais comment ils ont fait ? Ils se sont débrouillés ? Ils ont trouvé des petits boulots sur
place ?
En fait,
ils avaient des bourses. Mmh. Ils avaient des bourses. Après, ils ne sont pas partis dans les pays. Il y en a un qui est parti à Barcelone, une autre qui est partie en République tchèque. Mais en tout cas, ils ont réussi quand même à justement rencontrer cet autre monde social qu'ils n'avaient pas l'habitude de fréquenter. Quoi.
Mmh. Je pense qu'on est en train de parler d'un fossé entre deux formes de jeunesse. Je pense que c'est précisément avec seulement l'idée que des programmes Erasmus ou gouvernementaux portés par l'éducation nationale vont faire que, du coup, on exclut les autres et parce que les autres n'y ont pas accès, du coup, ils sont dans leur coin. Alors que finalement, le fait de ne pas avoir un diplôme, le fait même de ne pas avoir d'argent n'est pas en soi une barrière. Vous pouvez très bien partir sans argent à l'aventure. Je ne dis pas que c'est facile, que tout le monde peut
allez
le faire.
Allez le dire à ceux qui sont concernés.
Tu fais du stop, tu arrives quelque part, tu bosses comme serveur, je ne sais pas où.
Non, mais il n'y a plus de stop.
Mais maintenant, c'est Blablacar, il faut payer. Hein. Je vous rappelle quand même.
Mais on peut toujours le faire. Mais vous pouvez toujours le faire, vous essayez.
Yannis,
je trouve que ton point de vue est beaucoup trop extrême, parce que même si on est... On a envie que les choses évoluent, etc. Mais on est face à des réalités. Je ne peux pas aller voyager sans un minimum d'argent. C'est indéniable. Indépendamment de ma volonté, il y a un contexte de pression des institutions qui sont malgré tout là. Et au bout d'un moment, comme tu dis, à l'instant présent, il faut faire avec. Et donc, je suis obligée de payer. Je vais partir aux États-Unis. Enfin, moi, je suis partie aux États-Unis pendant un an. Je n'y serais pas allée si mes parents, ma famille ne m'avaient pas soutenue.
Oui, ça je comprends.
Je veux dire, si j'avais pas de logement là-bas, je ne serais pas partie.
Ou alors tu voyages sans consommer.
Je pouvais pas, c'est juste carrément impossible.
Alors, mais ouais. Christophe, est-il un non-consommateur ?
Non, ce que je veux dire par là, c'est pas un exemple pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec de la volonté, on peut faire beaucoup plus de choses qu'on l'imagine. C'est tout ce qui m'intéresse. Vous avez plein d'exemples sur Internet de gens qui sont partis sans argent et qui sont allés se débrouiller. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais je veux juste donner
problème de visa,
cet
pour
exemple-là. Oui, mais vous n'êtes pas obligé d'aller forcément aux États-Unis.
En face de vous, ils sont un peu dubitatifs quand même.
Ouais, non, je veux dire, mais moi j'aimerais bien, ma volonté est partir, voyager, j'aimerais faire le tour du monde, mais au bout d'un moment, il faut faire un constat. En plus, je ne peux pas partir comme ça, sans argent, sans rien.
Dans le cadre des études, c'est plus vraiment un obstacle en fait de voyager avec Erasmus.
Oui, dans le cadre des études.
Dans le cadre des études, je parle. Ouais.
Mais en tout cas, l'élargissement d'Erasmus pour les apprentis, donc qui ne sont pas dans l'enseignement supérieur à proprement parler, hein, qui peuvent être d'ailleurs au niveau bac ou avant, d'ailleurs bac pro. Non, il faut, c'est, en général, c'est quand même le bac pro, il me semble.
Oui, oui, c'est les centres de formation des apprentis.
Eh ben, merci beaucoup d'en avoir parlé. Dans quelques instants, Yanis, on vous donne la parole parce que vous trouvez qu'on ne parle pas assez de la précarité étudiante, ou en tout cas que cela ne scandalise pas assez, je présume. But I'll take it anyway. I spend my nights recalling our showers in the morning. On what you said that day, I'll take it to the grave. But once I'm in the grave, you won't care anyway. Pas du tout si Romain Dubrac a créé un programme musical à la mesure des attentes de la génération Y réunie dans le studio aujourd'hui. C'est Metronomy, ça vous dit quelque chose ou pas du tout?
Pas du tout.
Ah si, bon, ça va. Romain, tu peux rester dans l'équipe. Yanis Chankia, vous trouvez effectivement qu'on ne parle pas assez de la précarité étudiante, c'est pas assez débattu.
C'est pas que c'est pas forcément assez débattu, mais je pense que c'est important d'en parler le plus souvent possible, de la situation que plein de jeunes diplômés, c'est encore pire, mais étudiants vivent au quotidien. Moi, j'ai travaillé aux Courses de Paris, donc du coup, j'ai été confrontée...
Qui sont les œuvres universitaires.
Hein. Ouais, j'ai été confrontée à toute cette précarité, et c'est très compliqué, parce qu'en fait, par exemple, au niveau des bourses ou des attributions de logement, les critères sont spécifiques et chaque situation à chaque fois est unique. Moi, je m'en souviens, j'avais rencontré une fille qui était en cinquième année de médecine et je sais qu'ils ont un concours de spécialité, je crois, à la sixième année. Et elle me dit, bon, moi, je peux pas rester chez moi, c'est juste impossible avec mes internats. Je pense que je vais redoubler pour être sûre d'avoir la spécialité que je veux, parce que si on me donne pas de logement, moi, je pourrais pas tenir, donc c'est pas possible. Donc je préfère redoubler et essayer de trouver quelque chose et ensuite pouvoir préparer les concours sereinement. J'ai plein de choses.
C'est quand même dur d'entendre ça en France en 2015 ou en 2016.
J'en ai une, c'est pareil. Ce qui est particulier, c'est qu'elle était échelon 1, donc sur 7 elle a pratiquement, elle a aucune chance d'avoir un logement à Paris, surtout qu'elle vit à Paris. Sauf qu'elle n'aura
pas assez précaire.
Pas assez précaire. En plus, elle vit à Paris même. Et elle me dit, je fais des études, mais j'ai un changement dans ma famille. Un de mes parents a perdu un emploi. Je partage ma chambre avec mes deux sœurs. Il y a du bruit. Je peux pas travailler. Je suis dans des conditions pas possibles. Les loyers dans le privé, c'est juste impossible. Et toi, tu sais pas trop quoi lui répondre. Enfin, c'est très dur. Il y a plein de gens qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui souffrent au quotidien. Et c'est surtout notamment en raison du logement, clairement. Parce que ceux qui sont à la maison, c'est autre chose. Mais une fois qu'on doit vivre seul, ou en tout cas loin du domicile familial, ça devient très compliqué. Mmh.
Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe, de Students for Liberty?
J'ai envie de poser une question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas suffisamment de logements?
Je sais que le CROUS fait un effort pour qu'il y ait de plus en plus de logements étudiants, mais par rapport à la demande, j'ai l'impression qu'il n'y en aura jamais assez.
Pourquoi ça se fait qu'il y a une demande et que personne ne construit des logements?
Parce que ça coûte cher, et puis de toute façon, vous êtes d'obédience libérale. Donc,
puis il y a aussi une question d'espace, il y a une question...
Donc de toute façon, vous avez un marché. À partir du moment où le marché tend vers le haut, le prix est trop élevé.
Oui, mais donc si vous avez une demande, ça veut dire qu'en face, normalement, vous avez des gens qui ont intérêt à construire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? C'est la question que je pose. C'est-à-dire qu'il y a plein de problématiques derrière ce dont tu parles.
Regarde, toi qui parlais tout à l'heure des institutions. Oui. Là, sans les institutions, ça serait très compliqué pour des
milliers de jeunes. Moi, justement, je vais dire l'inverse. Parce qu'en gros, il y a plein de problématiques qui sont liées à ce que tu dis. Je vais reprendre celle du logement parce qu'elle est importante là-dessus. Moi, je me demande si on n'a pas des contraintes réglementaires et fiscales qui sont trop importantes et qui font que dans le privé, vous avez des gens qui ne construisent pas alors qu'ils construiraient. Parce que quelqu'un qui achète du neuf et qui veut le louer, il faut qu'il le loue à un prix extrêmement cher. Donc, en fait, il ne va pas avoir de rentabilité sur sa location. Donc, il n'a aucun intérêt à le faire.
Il y a plein de propriétaires qui savent exactement qu'il y a une course effrénée au logement étudiant et qui en profitent pour surenchérir constamment et proposer des prix qui sont énormissimes.
Surtout en plafonnant les loyers. Si vous donnez en plus des APL, en fait, en réalité, vous les envoyez.
Si on plafonne les loyers, moi, je veux bien. Mais en attendant, aujourd'hui,
On a dit que les propriétaires tenaient compte des allocations pour le logement pour du coup augmenter les loyers en sachant.
Mais après aussi la question de on va demander des conditions, on va demander des garanties. Il y a plein d'étudiants dans des familles par exemple monoparentales, c'est très compliqué. On va leur demander 3 mois de salaire, 2 garants, tel montant au niveau de la caution. C'est quasiment des conditions impossibles pour ensuite intégrer. Donc il y a plein de petites ficelles qui permettent aux propriétaires, moi je trouve du coup de mener le jeu, de dicter.
Mais c'est pas aussi simple que ça parce qu'en fait moi ce qui m'a c'est qu'on ait plus de propriétaires qui ferait que du coup le prix des logements à la location baisserait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
donc
qu'on construise.
Moins exigeant, c'est ça.
Et en fait, on a des contraintes réglementaires et fiscales qui font qu'il n'y a aucun intérêt à construire dans du privé. On a un problème là-dessus. Mais c'est une approche du sujet.
Vincent Delhomme.
Oui, pour répondre à la question de la précarité étudiante, il y a un instrument assez intéressant que nous, on promeut au sein de Génération Libre, c'est le revenu universel, en fait, et qui permettrait, qui serait versé également aux étudiants, puisqu'il serait versé à tout le monde. À partir de 18 ans, ce serait un revenu universel d'adulte. Donc, nous, on l'a modélisé à un peu plus de 500 euros.
Sans condition de ressources.
Sans condition de ressources.
Donc, vous êtes permettrait... sur le modèle de l'Europe du Nord, où les étudiants ont une vraie autonomie, quel que soit leur milieu.
Alors, ce ne serait pas un revenu spécifique, ce n'est pas une allocation d'autonomie pour les étudiants, c'est-à-dire que c'est universel.
Même pour les salariés?
Ah bah le revenu universel,
Tout dépend en fait de ce que vous gagnez. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, en tant qu'étudiant salarié que vous gagneriez, vous n'auriez peut-être plus ce revenu universel si jamais vous gagnez suffisamment. Enfin, il faudrait déjà travailler un certain nombre d'heures.
Les Suisses ont refusé le revenu universel par référendum. Une chose est sûre, c'est qu'en France, selon un sondage récent, 56% des sondés sont favorables à la mise en place d'un revenu de base garanti à tous les citoyens. Est-ce que vous, justement, vous êtes favorable à ça, qui se substituerait du coup à la plupart des allocations existantes? Ça serait une forme de simplification administrative également, et puis surtout ça tient compte de ce qui vous attend, c'est-à-dire plusieurs millions d'emplois supprimés dans le monde dans les années à venir du fait de la robotisation.
Oui, la création d'emplois dont on ne parle pas, qu'on ne connaît même pas aussi. Il faut y penser en même temps. Ce n'est pas aussi simple que de la destruction d'emplois.
Moi, je suis plutôt favorable au revenu universel. Déjà, quand on est étudiant, puisque le fossé qui est creusé entre les gens qui sont plutôt favorisés, ça a été mon cas. Hein. Moi, j'ai jamais eu besoin de bosser. Enfin, voilà, c'est compliqué. Et donc, du coup, j'ai jamais eu à me poser ces questions-là. Voilà, parce que j'avais le revenu suffisant. Mais après, j'ai des amis qui ont galéré, des amis qui ont redoublé trois fois, deux fois leur licence 2, licence 3, parce qu'ils n'avaient pas assez de boulot, qu'ils travaillaient à côté. Et tout ça, c'est une vraie problématique. Donc, le revenu universel pour les étudiants, et même pour les gens, parce que moi, du point de vue du marché du travail, on parle des gens qui veulent rentrer sur le marché du travail, mais on ne parle pas assez des gens qui veulent en sortir et qui veulent faire autre chose, monter des projets. Comment ?
C'est-à-dire qu'ils veulent faire autre chose.
On ne parle pas des gens qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas participer au système. Et je pense que...
Non, mais c'est vrai. Cela, il leur faut un revenu, effectivement.
Et oui,
donc,
et
si vous voulez bien sortir un peu de l'argent de votre poche pour eux...
Non, ce n'est pas une question de... C'est pas une question de...
Non, mais qu'ils sont en transition, c'est ça ?
Pas forcément, non. C'est qu'il faut s'intéresser aussi aux gens qui ne conçoivent pas leur vie, qui veulent donner un sens autrement à leur vie que de rentrer au marché du travail, aller se tuer.
Donc, pouvoir travailler
à
comme
l'usine,
bénévole, par exemple. Oui, le tout est qu'ils ne soient pas trop nombreux pour que les autres puissent cotiser pour eux, c'est ça ?
Peut-être imaginer un autre modèle de société, mais en tout cas, on parle beaucoup trop, je trouve, de gens qui envisagent de rentrer sur le marché du travail et pas assez de ceux qui ne veulent plus y adhérer, en tout cas.
Vincent Delhomme.
Alors nous, c'est pas forcément notre vision du revenu universel, puisqu'on n'a pas notre but, c'est pas qu'il se substitue au travail, puisqu'il est bien évident qu'avec 500 euros par mois aujourd'hui, on survit à peine.
Donc ça veut dire que ce sera un revenu pour que tout le monde puisse juste survivre et pas vivre décemment.
En fait,
ce revenu universel.
Ce revenu universel, en fait, c'est vraiment la logique du filet de sécurité. C'est-à-dire, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez dans votre vie, vous êtes certain que, en dehors d'un moment d'activité professionnelle, vous avez ce filet de sécurité qui vous rattrape, qui ne vous laissera jamais dans la misère absolue.
C'est un sujet dont on reparlera. Je terminerai avec le message de Philippe à Yaoundé qui nous dit « Ha ha ha, le revenu universel au Cameroun, ça nous fait bien rire. Le SMIC au Cameroun est d'environ 30 000 francs CFA, 45 euros. Une habitation au fin fond de la ville sans sanitaire vaut environ 15 000 francs CFA, soit 22 euros. Voyez ce qui vous reste. » Voilà, c'était le mot de la fin. Vous revenez quand vous voulez. Yanis Tchankea, Myriam Boukobza, Christophe Salzer et Vincent Delhomme. On note bien sûr les sites, vos activités multiples. Tout est noté, toutes les référence aussi pour parler avec vous sur notre page 7 milliards de voisins.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.